بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفيع الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité donc de reprendre ce soir les programmes sur les signes, les grands signes du Qiyama. Et le premier des grands signes du Qiyama, on l'avait étudié en plusieurs séances, on avait vu que c'était la venue d'Imam Mahdi. Et on avait dit que la venue d'Imam Mahdi, ce sera une nusra, une aide de la part d'Allah Azza wa Jal, après une époque où les musulmans vont connaître un état d'avilissement, un état d'oppression, ils vont être mazloum, opprimés sur la terre, comme jamais la Ummah n'aura connu. Et donc Imam Mahdi aura pour but de rapporter la Izzah, de rapporter l'honneur à cette Ummah. Il faut savoir que Dajjal, lorsqu'il va venir, son objectif sera de casser la suprématie de la Ummah islamiyya. L'objectif de Dajjal, il faut savoir que quand Dajjal vient sur ce dunya, il vient une époque où les musulmans sont à l'apogée. Les musulmans sont respectés dans le monde, les musulmans dominent. Et ce sera une époque où, on avait un peu abordé le sujet, à une époque où les musulmans auront déjà, ils auront déjà, alhamdoulilah, entrepris des conquêtes sous la direction d'Imam Mahdi et ils auront conquis pas mal de contrées. Et les musulmans seront alliés avec d'autres nations qui ne sont pas musulmanes dans le but de vaincre des ennemis communs. Donc c'est une Ummah qui sera à son apogée et qui va découvrir donc la venue de Ad-Dajjal. On avait expliqué en commençant avec Ad-Dajjal quelle est la description physique de cette créature. Hein? Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala l'a créée? Ça c'était le deuxième point. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était oui le hadith qu'on appelle hadith al-Jassasa, cette histoire où il y avait une personne qui s'était convertie à l'islam et cette personne raconte son histoire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que j'étais en mer avec mon équipage et mon bateau a dévié jusqu'à ce qu'on arrive dans une île déserte et là on a rencontré une créature étrange, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme ou c'était un être humain ou un shaitan et cette personne nous a amené dans un fort, c'est-à-dire dans une dans un endroit, dans un bâtiment, hein, on avait dit un monastère, on pourrait dire ça comme ça. Et à cet endroit-là, on a rencontré une personne qui était attachée. Et on n'a jamais vu quelqu'un ligoté de la sorte. Il avait, j'ai pas le hadith sous les yeux, c'était dans un autre livre, hein, il avait, si je me trompe pas, la tête enchaînée avec les genoux ou alors avec les chevilles. C'est-à-dire, il était vraiment attaché. Et on a eu une conversation avec cette personne, qui était donc Dajjal. Et cette personne a posé quatre questions à propos de quatre points précis sur ce dunya. Et la dernière des questions était sur la venue d'un prophète arabe. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait posé à ses sahaba la question, est-ce que cet homme est là? Est-ce qu'il a déjà, il est respecté? Est-ce qu'il y a des gens qui l'obéissent? Est-ce qu'il a commencé les conquêtes? Est-ce que, là il avait répondu étrangement, Dajjal a étrangement répondu à ces gens-là que il est mieux pour vous d'obéir à cet homme. Parce que moi je suis Ad-Dajjal et bientôt, il y aura tel signe, les quatre descriptions que ces personnes lui ont données à propos de différents endroits géographiques qu'on avait expliqué, on avait détaillé la dernière fois et on avait vu que géographiquement parlant aussi, on voit qu'il parlait d'un lac de je ne sais plus le nom, Tiblissi, un truc comme ça, hein, Tibériade, d'accord, lac de Tibériade, hein, qui devait s'assécher. Et on a vu une étude là, il y a deux ou trois semaines qui montrait qu'effectivement, il y aura bientôt plus d'eau dans ce lac, bref. Expliquez à ces gens que peu à peu vous allez découvrir ces signes et après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra l'heure où Allah ta'ala me donnera l'autorisation donc de venir dans ce dunya. Et ce hadith qu'on avait dit que c'était un hadith authentique, authentifié par, rapporté par beaucoup de livres authentiques de hadith bien sûr, ce hadith prouve que Dajjal existe et qu'il a eu donc une naissance. On avait même vu dans certains hadiths la description physique des parents de Dajjal. Donc Dajjal existe déjà, donc on a eu la réponse la dernière fois, il est présent et il a une croissance qui n'est pas semblable à celle des êtres humains. Parce qu'il était, il est né comme tout homme, d'accord, il a grandi mais est arrivé à cette étape de sa vie, de sa croissance on pourrait dire, hein, sa croissance s'arrête à ce niveau. Il ne va pas vieillir parce que quand il vient sur ce dunya, alors il existe depuis avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait donc plus de 14 siècles, 15 siècles, et quand il va apparaître, il aura l'âge d'un jeune homme. Et on avait expliqué comment il sera quelqu'un de très fort, de très imposant, avec une force physique incroyable. On avait expliqué aussi la largeur de son cou, il aura de grands cheveux, et on avait expliqué que parmi les signes distinctifs de Dajjal, ce sera son œil droit et son œil gauche. Ses deux yeux sont, on pourrait dire, déformés. Un de ses yeux est poché, hein, on ne peut pas voir avec cet œil, avec une pellicule de chair qui recouvre son œil, et l'autre œil est bariz, sort anormalement de son orbite avec une petite couleur verdâtre qui fait que n'importe quelle personne qui voit cet homme comprend que ce n'est pas une personne ordinaire. D'accord ? Et on avait expliqué que Dajjal avait annoncer donc à ces gens qu'après la venue du prophète sallam, quelques temps après, Allah Ta'ala lui accordera donc l'autorisation de venir sur ce dunya. Et bien sûr, le signe distinctif de Dajjal, c'est l'écriture de kafir sur son front. Dans certaines sources, c'est kaf, fa et ra. Dans certaines sources, kafir avec de la manière continue, un kaf, alif, fa et ra. D'accord ? On avait dit que c'est là un miracle d'Allah Azza wa Jal que l'arabophone qui n'a pas iman dans son cœur ne pourra pas lire ce mot. Et celui qui n'est pas arabophone, mais qui a iman dans son cœur, lui pourra le déchiffrer, le lire. Même si c'est un chinois ou un russe qui ne connaît pas un mot d'arabe ou une lettre d'arabe, Allah Ta'ala fera en sorte que cette personne, par le iman qu'il y a dans son cœur, pourra lire ce qui est écrit sur le front de cette personne. Et bon, ça, c'est un point qu'on n'a pas développé, mais par la suite, on verra quelles seront les choses exceptionnelles, extraordinaires que Dajjal va accomplir. Ce sont là des istikhraj, des miracles qu'Allah Ta'ala va lui accorder, des pouvoirs qu'Allah va lui accorder dans le but d'éprouver les gens. Éprouver les gens par ce qui est visible. Et il n'y a rien de plus pesant, de plus difficile pour une personne que de combattre ce qu'il peut voir. Quand quelqu'un va voir ses parents ressuscités et attester que c'est lui ton Dieu et tu dois l'obéir, et que cette personne-là, il se trouve dans un cas de figure où soit il croit au texte, il croit à l'enseignement qui remonte à 1400 années, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas vécu cette époque, ou alors il voit un miracle devant lui, une personne morte, ressuscitée, un proche en plus qui lui dit telle chose. Ce sera là vraiment des épreuves accablantes pour le musulman. C'est là qu'on va voir qui c'est qui a réellement le iman bil ghaib. Parce que ce din est basé autour du ghaib, l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Celui qui croit en l'invisible, il sera, inshallah, il sera sauvé et il ne tombera pas dans le piège de Dajjal. Et donc, pour revenir à ce sujet, malgré tous les pouvoirs qu'Allah va lui accorder, ça c'est le lien avec la description physique de Dajjal, malgré tous les pouvoirs qu'Allah lui a accordés, Dajjal ne peut rien faire pour ces trois signes physiques sur son visage. Malgré qu'il peut faire tomber la pluie, il peut faire pousser les récoltes, il peut ressusciter un mort bi-idhnillah par la grâce d'Allah, mais changer son œil droit, il ne peut pas. Changer son œil gauche lui est impossible, et effacer ce qui est écrit sur son front n'est pas dans ses pouvoirs. Parce qu'Allah Ta'ala a décidé que ces signes-là, ces trois signes-là, seront visibles par chaque mu'min, par chaque personne qui aura iman dans son cœur. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un vaste sujet qu'on a résumé, on a condensé, parce qu'on a eu des conseils, alhamdoulilah, il y a des gens qui nous donnent des nasiha. Il dit que maintenant vous vous étalez trop. Vous vous étalez trop dans les programmes, on commence un sujet, on passe du coq à l'âne, à Rachid, à M. Moulin, à M. Locat, et puis à la fin on perd le fil. Bon, on va essayer d'être plus concis. On va résumer, vraiment résumer le thème du jour en 4 points. En 4 points. J'allais dire 3, mais en 4 points. Alors, c'est un sujet important. Quels sont les événements qui vont précéder la venue de Dajjal? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dajjal va venir. Il y a même des gens, parfois ça peut être des grands savants, d'accord, du monde musulman, pas francophones, qui font des cours hein, sur les grands signes de Qiyama. Et parfois, à mon humble avis, peut-être qu'ils s'avancent un petit peu dans l'interprétation des signes. Hein, il y a certains qui vont inclure tout ce qui se passe en Syrie, en Syrie, ou alors avec Kadhafi et tout, ils disent, bref, ils font un amalgame, ils interprètent les signes en disant que ça c'est l'événement annoncé, jusqu'à venir à un point où ils disent que ça c'est franchement, on est en décalage avec les textes, ils disent que Dajjal, les 40 jours qu'il va passer sur la terre, ont déjà commencé. Et cela commence depuis l'Empire britannique parce qu'il y avait tel signe. Ce ne sont là que des interprétations. ce ne sont là que des interprétations. Et à mon humble avis, et là je rejoins l'opinion de beaucoup de grands savants qui disent que, vous savez, la venue des grands signes de Qiyama, c'est un bouleversement pour l'humanité. Ça on l'avait dit au tout début. C'est un bouleversement pour l'humanité. Quand Dajjal arrive, il va signer la fin du monde. C'est quelque chose qui a été annoncé par tous les prophètes, depuis les premiers des Anbiya. Et les deux seuls prophètes qui avaient une certaine connaissance de Dajjal, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui Rachid, avant lui le prophète Isa alayhi salam. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus de science, plus de connaissances sur la venue de Dajjal. Donc c'est un événement important, c'est un événement qui va marquer l'histoire de l'humanité. Alors ça ne peut pas être quelque chose de caché, qu'il faut vraiment rechercher, hein, il faut interpréter pour se dire que réellement Dajjal est déjà sur ce dunya. Non, ça c'est pas possible. Sachant que c'est un signe manifeste de la fin du monde, assurément, j'avais un professeur qui disait ça, dit quand un des grands signes de Qiyama va apparaître, ce sera limpide et clair. Parce que quand Allah envoie un de ses signes, c'est qu'il y a un but précis. C'est pour réveiller la Ummah et pour éprouver la Ummah. Donc ça ne peut pas être quelque chose de caché. Ça va être quelque chose qui sera visible aux yeux de tout le monde. Donc nous restons fidèles aux textes qui disent que Dajjal viendra, et quand il apparaîtra, il y aura une annonce. Parce que qu'est-ce qui fait que on est en rupture avec les textes si on suit l'opinion de ce savant qui dit que Dajjal, et ça avait été repris par The Signs, hein? Vous vous souvenez de The Signs, c'est sur Dailymotion, c'est quelque chose de pas mal fait, on avait déjà abordé ça il y a longtemps, quelque chose de bien, c'était des trucs vidéo et tout, mais il rejoignait la thèse que Dajjal existe depuis plus de 1000 ans, et ça c'est pas possible. Et ça c'est pas possible, parce qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui que lorsque Dajjal va apparaître, il y aura I'lan. Les gens vont dire que Dajjal est là juste après la conquête de Constantinople, les musulmans vont entendre que Dajjal vient d'arriver, et là ils vont quitter Constantinople pour retourner vers leur pays, vers leur famille, pour prendre position contre Dajjal. Donc, il y aura une annonce de la venue de Dajjal, de l'apparition de Dajjal. Donc, ça peut pas être que, et ça, c'est en rapport avec la conquête de Constantinople, qui aura lieu en même temps qu'il y aura l'alliance entre musulmans et d'autres communautés pour vaincre le fameux ennemi commun qu'on avait dit il y a quelques temps. Donc, je dirais bien que c'est à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui existe depuis 1000 ans et que personne n'est au courant. Non, c'est quelque chose de manifeste. Donc, il y a des signes. Alors, on va voir dans une première catégorie de signes, il y a ce qu'on appelle, on a résumé franchement avec, de manière presque irrespectueuse, on a mis ça sous le terme de alamat am, des signes généraux, hein, qui doivent absolument se produire avant la venue de Dajjal. Alors, on a deux citations d'Hazrat Ali radiallahu anhu et une citation d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui se rejoignent tous et qui font mention de certains signes de dépravation des mœurs, des habitudes, des akhlaq, des comportements des musulmans au fil des temps qui fera que la venue de Dajjal sera imminente. Quand les valeurs vont se perdre, ça prouvera que Dajjal va bientôt venir. Et je vais vous citer ces signes, et Wallah Musta'an, sur 20 signes peut-être, mais rapidement, je crains que les 20 se sont déjà réalisé. Wallah musta'an. Ali radiallahu anhu, il parlait avec les sahaba, wa dhakarna ad-dajjal. Hein, ça c'est hadith de Abi Rubian, il dit que on a parlé de Dajjal, fa sa'alna Ali radiallahu anhu, on a demandé à Ali, mata khuruju, il a demandé à Ali quand est-ce qu'il va? Il va venir. Il a demandé également comment, wa mata yakunu dhalik, à quelle époque? Et Ali a donné quelques signes. Et parmi les signes, wa ya'kulu ash-shadid ad-da'if. Il y aura une époque où les gens qui sont au-dessus, les gens qui sont forts, vont faire preuve d'injustice, littéralement le fort va manger le faible. Et dites-moi si ce n'est pas quelque chose de manifeste à notre époque. Là, malheureusement, nous vivons à une époque où il n'y a plus de ta'awun ala al-birri wa taqwa. Ce n'est pas qu'on essaie de s'entraider de la piété, ce n'est pas qu'on se dit que lui c'est un musulman, on va essayer de l'aider, c'est un frère en islam, on va faire en sorte qu'il s'en sort, on va essayer de l'aider, le temps de la pêche. Non, malheureusement, nous voyons dans nos relations, même dans une petite communauté comme la nôtre, hein, on n'hésite pas à se tirer dans les pieds, dans les pattes comme on dit. Le musulman est prêt à casser son prochain s'il a un intérêt, s'il a un profit. Alors que cela va totalement à l'encontre de l'enseignement prophétique. On peut être religieux, barbu, bien habillé, parfumé, issu de grandes familles et tout, mais quand il s'agit d'argent, de business, d'honneur ou de telle chose, on est prêt à écarter, même de manière irrégulière, son prochain. Et ça, malheureusement, ce n'est qu'une, c'est un constat de vérité. Quand vous demandez, quand nous demandons à nos anciens, à nos grands-parents, comment est-ce qu'ils travaillaient, les premières générations qui sont venues à La Réunion, ils vous diront, ils vous raconteront des histoires pour ceux qui sont toujours vivants, ils vous diront comment il y avait une entraide, une solidarité, une entente, comment un voisin était prêt à aider financièrement son prochain, quelqu'un des problèmes de son commerce, il va l'aider, il va faire en sorte qu'il ne ferme pas boutique. De nos jours, quand nous voyons un voisin fermer boutique, on est heureux. Parce qu'on se dit que son garak va venir vers nous. Avant, il était content quand son voisin a un garak, client. Maintenant, on espère que son magasin ferme parce qu'il y vend la même chose que moi. Donc, si mathématiquement, si lui, il baisse son panneau, 50 clients par jour, ça vient chez moi. Et s'il ne baisse pas assez rapidement, ben, mais ça, ouais, on va trafiquer une petite affaire, on va mettre de notre coco devant son magasin ou alors quelques petits trucs, arranger un peu ses histoires, fait qu'il va fermer un peu plus vite. On va accélérer un peu les choses. On va faire en sorte qu'avant que la graisse tombe, ben son graisse il tombe et que lui-ci il fait un panneau, son panneau il tombe avant que la graisse tombe. Allah musta'an. Et ça, vous savez, ce genre de cas où il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Hein. Les commerçants ils savent comment ça se passe malheureusement, comment Allah musta'an. Il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de solidarité dans la communauté. Celui qui est fort, celui qui est costaud, il va manger celui qui est faible. Il n'y a plus de raham, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de désir d'entraide. On n'est plus à l'époque, c'est vrai qu'on n'est plus à cette époque, mais analysez comment les muhajirs et les ansars s'entraident. Aujourd'hui, on est des spécialistes de bayan, de grands discours, on est dans l'événementiel, on est dans les grands qaris qui lisent, qu'on s'exclame, on aime bien dire ça, on aime tout ça, on aime la religion spectacle. C'est clair, quand on a un artiste qui vient, à son freestyle, il fait des choses extraordinaires, on est heureux, on est content, on est musulman. Là, on est content, on est de bons musulmans, mais arriver à la porte à l'extérieur, c'est fini. C'est-à-dire, Wallah Moustan, nous sommes focalisés sur tout ce qui est extérieur. Et parfois, il y a des jeunes comme ça sur Facebook, vous voyez, ils mettent des statuts, mais moi, je suis très attentif à ça. C'est des jeunes qui sont un peu en marge de la société. Ils viennent masjid, mais on voit de leur regard, de leur comportement, qu'ils en veulent à la communauté. Et ça se repère, ça. Et dans leur statut, certaines personnes que je suis attentivement, je vois qu'il y a une rancœur quand même. Parce que c'est vrai, nous vivons une religion d'apparence. Mais les akhlaq, le comportement, les valeurs du musulman, on ne le retrouve presque plus. Le muhajir, pardon, le ansar, hein, le Ahl al-Madina, qui accueille celui qui vient de Makkah, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de famille, qui lui donne une portion de sa maison pour habiter, qui lui donne un travail le temps qu'il s'en sorte et qui le loge jusqu'à ce qu'il trouve une stabilité, ça c'est à la base de la première société musulmane. Madina ne s'est pas bâtie avec le pétrole ou avec l'argent, avec l'or. Allah Ta'ala n'a pas donné au Prophète sallallahu alayhi wa sallam une mine d'or lorsqu'il est arrivé à Madina, non. Mais Allah Ta'ala a donné au Prophète sallallahu alayhi wa sallam les qualités du mu'min, les qualités qui sont valables, qui sont universelles pour toutes les relations humaines. C'est at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa, s'entraider quand on a iman dans notre cœur, aimer notre prochain pour Allah. C'est grâce à ça que les musulmans ont connu cet essor à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant sur le plan du comportement, mais également, ils ont imposé le respect. Ils sont devenus une nation exemplaire parce qu'il y avait l'entraide à la base. Ils n'étaient pas tous très riches, mais il y avait la muhabba, il y avait le ta'awun, il y avait l'entraide. Mais à la fin des temps, donc il n'y aura plus cette entraide malheureusement. Deuxième signe que Ali radiallahu anhu a cité, lorsque les relations familiales seront rompues. Et ça, malheureusement, c'est presque devenu une généralité, une réalité même. Hein, dans beaucoup de familles, il y a des cassures, il y a des coupures. Le beau-frère ne parle plus avec son prochain. Si ce n'est le jour de Eid et de Bakr Eid, où on se retrouve, on mange ensemble, malheureusement, il y a très peu de familles. Je parle de La Réunion, hein. Je ne connais pas les autres contextes. Il y a très peu de familles à notre époque, hein, qui se retrouvent encore régulièrement autour d'une table, qui échangent, qui ont des idées et qui écoutent les problèmes des autres, qui essaient de s'entraider. Ça, malheureusement, ces valeurs-là sont perdues. En général, au sein d'une même famille, plus on est proche, plus on se bouffe, plus on est jaloux. Ça, c'est un grand problème. Il y a deux choses. Le iman et la jalousie ne peuvent cohabiter normalement, naturellement, dans un même cœur. Parce que le prophète me dit que iman, que les bonnes actions sont consumées, sont brûlées par la jalousie comme le feu consume le bois. C'est-à-dire qu'un mu'min ne peut avoir les a'mal ou salihan, les bonnes actions, et en même temps être jaloux et envieux de son prochain. Malheureusement, qu'est-ce qui fait que les familles se détruisent entre eux? C'est qu'il y a la discorde, mais surtout il y a la jalousie. On ne veut pas qu'un proche réussisse alors que moi je reste à terre. Ça, c'est une réalité. hein, rupture des liens familiaux. وَيَخْتَلِفُوا اِخْتِلَافْ أَصَابِعِهَا أُولَى. Le poisson m'a montré sa main Moubarak avec ses doigts. Il dit que les musulmans vont se séparer. Il y aura divergence de la Ummah comme ça, en séparant ses doigts, hein, comme le prophète a fait. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui divergence dans le monde musulman. Et il y a parfois des divergences qui viennent de nous-mêmes, mais très souvent, la plupart du temps, les divergences qu'il y a dans la Ummah, ce sont des divergences qui sont orchestrées, qui sont organisées par d'autres personnes, des personnes qui sont extérieures, dans le seul but de casser la Ummah. Parce qu'ils savent que quand la Ummah avance de manière unie, ils ont l'aide d'Allah. À partir du moment où il y a ikhtilaf al-khuloub, il y a divergence dans les cœurs, ils n'ont plus l'aide d'Allah. Parce que quand il y a des divergences, on n'avance plus pour Allah, là, on avance pour se faire valoir. Regardez les premières divergences qu'il y a eu dans la Ummah. C'était quand? Historiquement, la première grande cassure de la Ummah. Histoire de l'islam. On n'est pas dans l'Empire Omeyyade, bien avant. Sous le khilafat de Ali radiallahu anhu. Après l'assassinat de Hazrat Uthman radiallahu anhu, il y a eu une divergence. Mais ce n'était pas une divergence importante. Divergence entre Hazrat Ali radiallahu anhu et d'autres personnes qui pensaient qu'il fallait trouver les assassins de Hazrat Ali avant de rétablir l'ordre de la Ummah. Deux opinions différentes. Mais, hein, comment? Oui, il fallait retrouver les assassins de Hazrat Uthman et d'autres qui disaient que non, il faut tout d'abord rétablir le khilafa. Et les deux camps avaient raison dans un sens. Ceux qui voulaient juger les assassins, ben, il fallait trouver qui a tué le calife quand même. Et ceux qui disaient, entre autres il y avait Hazrat Ali, qui disaient que non, il faut d'abord rétablir le khilafa. Pour lui, les assassins sont inconnus. Et ils sont fondus dans la communauté. Ils sont présents, on ne sait pas c'est qui. Alors si on va passer du temps à enquêter, à trouver les personnes, ça va perdre du temps. Et il y a des ennemis tout autour. On est à une époque où les nations s'affrontent. Quand on voit qu'il y a une personne qui baisse un peu en vigilance, on les attaque. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Donc, les deux positions se défendaient. Mais les musulmans n'étaient pas arrivés à un point où ils allaient se battre, s'affronter. Qu'est-ce qui a fait que Muawiya et Ali radiallahu anhu se sont affrontés? C'était quoi l'événement qui a tout déclenché? Qu'est-ce qui a provoqué le Ma'rakatu Jamal et de Sufin? Ces deux événements qui sont des points noirs de l'histoire de l'islam. C'est qu'il y avait des munafiqin, des hypocrites. Je ne vous dis pas ils étaient quoi avant. Je ne vous dis pas de quelle religion ils étaient avant. Ils sont rentrés dans l'islam dans le but de casser la Ummah, dans le but d'apporter des oppositions. Et donc, vous pouvez lire n'importe quel livre, pas en français bien sûr, ils ne vous raconteront jamais, sous cette forme, n'importe quel livre écrit par un musulman qui explique l'origine de ces deux batailles. Il y avait deux camps, c'est clair. Il y avait opposition entre Ali et Muawiya. Mais jamais n'était passé par la tête d'un de ces deux dirigeants d'affronter son prochain. Jamais, c'était des sahaba, subhanallah. C'était des gens qui étaient au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais parmi les munafiqs, ils s'étaient rencontrés à un moment donné et ils allaient trouver une solution à l'amiable. Mais les hypocrites qui étaient dans les deux camps, se sont dit que ils vont trouver une solution à l'amiable, pacifique, qui fait qu'il n'y aura pas d'affrontement. Alors qu'ils voulaient la guerre. Ils voulaient que les musulmans soient déchirés en deux, sachant que s'il y a eu une scission à cette époque, la scission durera tout le temps. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc ils ont comploté de la sorte qu'au matin, après le Fajr, l'hypocrite du camp A attaque l'hypocrite du camp B et ils vont faire une simulation comme si qu'il y a un début de bataille. Et chaque personne va alerter son chef de camp, dit que l'armée ennemie nous a attaqué. Et de la sorte, une personne, deux personnes, une dizaine de personnes, ils vont contribuer à défendre leur camp, ce qui va provoquer un chaos, et c'est ce qui s'est passé. Alors, en finalité, il y a eu un affrontement entre les deux groupes qui n'étaient pas venus pour se battre. Et lorsque Ali et Muawiya, ils ont entendu ce qui se passait, ils se sont dit, mais qui a donné l'ordre d'attaquer le camp ennemi? Il n'a jamais été question d'attaquer le camp ennemi. Ils n'étaient pas venus là pour se battre. Et de la sorte, ces munafiqins, ces hypocrites, ils ont réussi à provoquer une guerre entre au sein de la Ummah. Et cette division, cette divergence, qui est devenue une division malheureusement, elle perdure. Et elle ne s'arrêtera malheureusement jamais. C'est-à-dire que ça c'était la technique des ennemis de l'islam, ils savent que ce dîn, il est parfait. Si le mu'min, le musulman, suit cette religion sous tous les angles et surtout sur ses bases, le noyau, c'est l'entente, la mahabba. Mais s'ils ont réussi à casser ce noyau, il n'y a plus la nusrat d'Allah. Regardez, on veut encore dire que moi, non, les djaou pour autant, ils talpent. Mais regardez à Badr, 313 musulmans contre combien d'ennemis? Plus que ça? Non, non, non. Plus que ça, c'est pas la réponse. Un examen, j'ai jamais vu d'El Paou, la note de ça. D'accord? Hein? 313 contre plus de 900 ennemis à Badr. Retenez. Et à Uhud, pareil. 1000 contre 3000, trois fois plus à chaque fois. Trois fois moins de musulmans, beaucoup moins d'armes, de chevaux. Ça, c'est la blague qu'on fait à Madressa. Moins de chevaux et de chameaux, mais une entente. Muhabba, ta'awun et iman yaqin. Inébranlable, ce qui fait que 300 ont pu vaincre 900 et qu'à Uhud, 1000, ils ont eu le dessus sur 3000 jusqu'à ce qu'il y a eu irtila, jusqu'à ce qu'il y ait eu désobéissance à l'ordre du prophète. Bref, comprenez que quand il y a ta'awun, il y a muhabba, il y a toujours l'aide d'Allah. Et ces personnes, ces hypocrites, ils ont compris comment toucher la umma, c'est en enlevant la muhabba. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque après l'assassinat de Hazrat Uthman radiallahu anhu. De nos jours, qu'est-ce qu'on entend? Ben, ce qu'on entend, c'est que il y aurait des groupes extrémistes. On essaie de mettre des étiquettes sur tous les groupes, tous les musulmans. On entend que, là on disait là, il y a quelques jours dans les médias, on parlait d'un imam et tout, qu'il y aurait des relations en France, hein, bien sûr, ici on est tranquille, il y aurait des relations avec tel groupe extrémiste. Recherché, on parle du tablique. On parle d'un autre savant, il appartient à telle école extrémiste des Déobandis. On parle d'un autre savant du monde arabe à l'école extrêmement rigide et extrémiste des wahhabites. Mais d'où viennent ces noms? Vous pensez que les savants arabes, ils se sont dit que nous on est des wahhabites, vous êtes des vilains? Vous croyez que les déobandis disent que nous on est des déobandis, on est de le vrai, vous êtes de le faux? Vous croyez que les tabliques disent qu'on est les tabliques et on est les meilleurs et vous êtes n'importe quoi? Mais jamais ces étiquettes-là, ils ont été mis par des personnes qui ont pour objectif de monter les groupes, déjà de forger des identités, de se dire que moi j'appartiens à tel groupe et je suis le seul groupe qui est dans la vérité, eux ils sont dans l'erreur, de telle sorte que les groupes pensent que les autres sont dans l'erreur et qu'il y ait divergence dans les cœurs. Aujourd'hui ils font tout pour opposer les deux grandes nations musulmanes, le monde indien, les savants indiens et les savants arabes. Regardez les discours. On parle des Déobandis, on parle des Salafis, on parle des Wahhabis, mais je vous donne ma parole que toutes ces divergences-là n'ont aucune source. Ce sont des motifs que les ennemis de l'islam essaient de mettre en avant pour monter les musulmans, malheureusement, les uns contre les autres. Wallahu musta'an. Et vous savez, cette technique-là, elle était utilisée, est-ce qu'on a le droit de dire les noms de pays, à la fin, pendant la période où il y avait les colonies, bien sûr. Allez, on va dire un des grands pays, on ne dira pas son nom, God Save the Queen. Quand il y avait l'Empire Ottoman, Dawla Uthmaniya, vous savez que l'Empire Ottoman, c'était le dernier khilafa, le dernier califat des musulmans, c'était dirigé par qui, Rachid? L'Empire Ottoman, c'était quelle nation? Turquie. Inch'Allah. Tu es en quelle classe? Seconde, toi tu fais des pizzas. D'accord? Donc, était dirigé par des Turcs, d'accord, et cet ennemi, d'accord, il savait quelle était la force des Turcs, quelle était la force de la Oumma à cette époque. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le maximum pour opposer Turcs et Arabes. Et c'était l'apparition des mouvements Al-Qawmiyya Al-Arabiyya. Il y a une traduction en français, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, Al-Qawmiyya Al-Arabiyya. Bref, c'était fait en sorte que les Arabes s'unissent entre eux. Ce n'est pas une union de Mohabba, non. C'était s'unir contre les musulmans turcs. Faire prévaloir la culture arabe sur la culture turque. Et du côté des Turcs, ils ont semé la même gangrène. Faire en sorte que les Turcs soient fiers de leurs origines, de la tradition, et qu'ils s'opposent aux musulmans arabes. Et vous savez, c'est arrivé à un tel point qu'en Turquie, ils donnaient l'azan en arabe, en turc. C'est arrivé à un tel point qu'à l'époque de l'Empire Ottoman, on ne donnait plus le adhan en arabe, mais on le donnait en turc. Le adhan ne compte pas, bien sûr. Mais c'était pour que ces gens-là, c'est-à-dire ils ne mettent pas en avant le iman, ils mettent en avant l'identité nationale. Vous savez, et ça a marché malheureusement. Il y a eu cassure entre arabes et turcs. Wallah musta'an. À chaque fois qu'il y a divergence de la umma, il n'y a plus l'aide d'Allah. Et quand il n'y a plus l'aide d'Allah, c'est la faillite pour cette umma. Donc, Et c'est ce que le prophète a annoncé à la fin des temps. Les gens vont avoir des divergences comme cette main, comme les doigts de cette main. Un sahaba était inquiet et dit فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَيْفَ تَأْمُرُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Oh, Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'on doit faire à cette époque? Et là Ali a dit إِنَّكَ لَنْ تُدْرِكَ ذَلِكَ. Elle dit ne t'inquiète pas, cette époque-là tu ne vas pas le vivre. فَطَابَتْ أَنْفُسَنَا. Et là on était rassurés, parce que pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on peut être musulman et avoir ces défauts-là. Ils ne peuvent pas s'imaginer comment s'en sortir à une époque où la Ummah connaît de tels problèmes. On va essayer d'accélérer un peu, Inch'Allah. On a 30 minutes, on s'arrête à 40 minutes, encore 10 minutes, Inch'Allah. Deuxième hadith de Hazrat Ali également, radiallahu anhu, à peu près les mêmes questions dans d'autres circonstances. Il a cité d'autres, on va résumer. Il a dit que parmi les signes, il a amat al-nas au salawat, lorsque les gens vont abandonner la salat. Regardez, salat al-Eid, au vélodrome là-bas, Edga. Vous voyez le nombre de musulmans qu'il y a? C'est des musulmans d'où ça? De Sanni. Mais subhanallah, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont pour les autres salats, namaz, fajr? Où est-ce qu'ils sont pour les salats qui sont obligatoires et non pas un salat al-Eid qui n'est pas obligatoire? On voit bien que si on analyse quel est le pourcentage de musulmans qui est régulier dans sa salat, ça fait peur les chiffres. Et ça, c'est un pour les sahaba, c'était impensable, c'était inimaginable. C'est le hadith du prophète Ibn Mas'ud disait que les seules personnes qui ne se joignaient pas à la prière en congrégation, c'était les munafiqs. Elle dit même quelqu'un qui était malade, il se faisait épauler par deux personnes et on l'amenait, on l'installait dans le saf. Là, on ne parle plus de faire la salat ada, à l'heure, on parle de faire la salat en jamaat. Parce que ça, quand on parle du muhabbat d'union, la salat en jamaat a pour but de réunir les gens, de créer un climat d'entente et de muhabbat au sein de la jamaat, au sein de la communauté. C'est pour ça que la masjid est un lieu où il ne faut surtout pas provoquer de problèmes. Vous savez, une fois, il y avait un bédouin qui est entré, il a uriné dans la masjid. Le prophète, il l'a vu. Les sahaba, ils ont vu. Et les sahaba, ils voulaient le frapper. Le prophète a calmé ces personnes. Il a laissé terminer. Puis ça aussi, petite parenthèse, médicalement, c'est prouvé quand quelqu'un est en train d'uriner, il ne faut pas qu'il s'arrête pour recommencer. Il paraît c'est très mauvais pour la santé. Ça, c'est une des hikmas des sages, par exemple. Le prophète, il a laissé terminer. Puis les masahaba aussi disent que de toute façon, il a uriné 2 secondes ou 10 secondes, l'endroit était impur. Ça ne changera rien. Le prophète a attendu à calmer les sahaba et le prophète a expliqué à cette personne que la masjid est un lieu béni par Allah. C'est pour faire le dhikrullah, la salat, l'ibada, et non pas pour ce genre de choses. Il a expliqué, et le bédouin était tellement choqué. Il a compris la gravité de son geste, et il était impressionné par la bonté, la grandeur d'Allah, le prophète sallam, qui a dit, oh prophète d'Allah, demande à Allah d'avoir pitié pour moi et toi, et pas pour les autres, parce que les autres se sont mis en colère. Que pour les deux, le prophète a dit qu'Allah ait pitié pour nous tous. C'est-à-dire que la grande leçon à retenir, c'est que dans une masjid, on parle de manière correcte, toi avec respect avec les gens. C'est-à-dire que même s'il y arrive parfois quelqu'un sur GSM à sonner, sur un mode musique ou autre chose, on n'a pas à lever à gueuler avec la personne. Oui, il reste au case ou à tel portable. Ça ne se fait pas. La masjid, c'est la maison d'Allah. C'est un endroit où il y a la rahma, la sakina, la bénédiction qui descend. C'est pas un endroit où on lève la voix, c'est pas un endroit où on va agresser notre prochain. C'est l'endroit le plus aimé par Allah. Et donc, on doit agir de la manière la plus correcte avec nos ibadallah, avec les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'important de la salat en jama'at, ce sera perdu à la fin des temps. La pratique de la salat même, malheureusement, sera oubliée. Wa umaa. Et puis, wa umara'uhum fajr, wa uzara'uhum khiwana. Deux signes en rapport avec les événements politiques. Parce que ça me dit que Ali dit qu'à la fin des temps également, les dirigeants du monde musulman, ce seront des pêcheurs. Et leurs délégués, leurs ministres, ce seront des traîtres. On voit la situation du monde musulman, qu'est-ce qui se passe, wallahu musta'an. Wa qurra'uhum fasaqa. Ah, il y aura des grands qaris, mais des grands qaris qui n'auront pas la pratique. Wa fashazina, et l'adultère sera répandu, wallahu musta'an. Est-ce que le mot adultère existe encore? Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, et attention, on ne fait pas l'adultère? Elle dit, quoi, compte? C'est ma copine, je l'aime. Adultère, c'est quoi ça? Je l'aime, il fait bisous, adultère. Yani, c'est le fait de parler le mot adultère, c'est vraiment quelque chose hors contexte. On a fait des petits programmes sur l'islam au lycée là-bas, les vavasseurs. Mais franchement, c'est un autre niveau hein, quand on parle avec ces jeunes. C'est pas une adressale. Hein. Donc ne prononcez pas des mots du style adultère et tout. Ils vont vous dire que vous êtes de notre planète là. C'est quoi l'adultère? Parce qu'on est tous des adultères. Hein. D'accord, Wallah, Moustan. Il y a un ancien élève. Il est en France maintenant, il a tenté l'Eldorado, l'aventure en France, c'est loin, et il voulait faire je sais pas quoi, et il met des photos de lui, en boîte de nuit, tout ça, avec des amis en train de faire la chenille avec des filles. Vous savez c'est quoi faire la chenille? Rachid, on voit là-bas, fait une pizza avec la chenille, d'accord, ok. Et moi, j'étais choqué. Non seulement on fait un péché, mais en plus on s'affiche publiquement. Ça, c'est plus grave. J'ai dit à cette personne, comment ça se passe là-bas? Est-ce que Iman n'est pas en danger? Elle dit que non, Moïssa, mais inquiète pas, Iman n'est pas en danger. C'était juste un petit, il y avait un terme, c'était juste un petit déconnade ou alors un petit extra, enfin un mot comme ça. Hein. C'était voilà un mot qui m'a choqué. Ça faisait rien, mais en même temps, c'était choquant. C'est-à-dire qu'on minimise les choses. Alors que quand on fait un premier pas vers une boîte, à la Réunion peut-être on ne le fait pas, quand on va en métropole ou autre, on fait un premier pas là-dedans, comprenez bien que quand Shaitan vous a eu une fois, il vous aura tout le temps. C'est-à-dire qu'il vous a amené, là, il vous amène vers son chemin, Allah Mustaan. Donc, Allah Mustaan. Ça me dit que Ali dit que le zina, l'adultère sera répandu. Ça deviendra quelque chose d'accepté par la population. D'accord ? Si vous lisez un peu les médias anglais, anglophones, américains, pour eux, ils vous disent même qu'une femme qui trompe son mari ou un mari qui trompe sa femme, ça apporte, regardez bien, c'est les psychologues qui disent, hein, ça apporte une stabilité dans le couple. Parce que la relation extra-conjugale, c'est comme si on va évacuer nos pulsions bestiales, les gros animaux, les pulsions bestiales, le machin, et on va concentrer l'affection, l'amour, l'attention dans le couple. C'est du grand n'importe quoi ça. Ça c'est l'apologie de l'adultère. Ça c'est vraiment les wasawis de Shaitan. Et ça vient dans les livres de psychologie, et je vous assure, vos enfants ils vont apprendre ça bientôt. Déjà, ils sont en train d'introduire des notions sur l'homosexualité pour les enfants. Ils veulent faire comprendre qu'un couple homme-femme, c'est normal, mais un couple homme-homme ou femme-femme, c'est également normal. Moi, je dis que c'est choquant. Si mon fils un jour rentre à la maison et me dit qu'on nous a appris qu'un monsieur et deux monsieur peuvent s'embrasser et vivre ensemble, il faut changer d'école. Il faut aller dans les écoles catholiques si on n'a pas d'école musulmane. Non, ça c'est grave ça. Parce que c'est dès l'enfance, ils sont en train de changer ce qui est la fitra, ce qui est dans l'inéité. Et cette inéité, elle est confortée par notre dîn. Une grande question qui revient quand vous faites, quand on a fait quoi là-bas à l'Eva Vasseur, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité, monsieur l'imam? Bon, on dit clairement, il ne faut pas arrondir les bords et dire que non, mais vous avez le droit de vous aimer, l'amour universel, c'est pas vrai tout ça. Quand c'est haram, c'est haram. Quand ça va à l'encontre de ce que Allah nous a enseigné, on le dit. On le dit de manière claire. On n'est pas des hypocrites. On veut bien entamer le dialogue, faire en sorte qu'on ne montre pas qu'on est intransigeant sur tous les points. On dit qu'on a des principes. Les principes, c'est qu'un couple, c'est un homme et une femme. Et les relations doivent avoir lieu dans un cadre légal, encadré donc par la religion, par les liens sacrés du mariage. Maintenant, une relation homosexuelle n'est pas acceptée, n'est pas tolérée par notre dîn. Maintenant, si quelqu'un le pratique, notre travail à nous de imam, c'est de le rappeler que telle relation est illicite. Maintenant, c'est entre lui et Dieu, parce qu'il n'y a pas de clergé dans la religion. Je ne suis pas là pour surveiller, pour inspecter, non. Il fait son péché, c'est entre lui et Allah. Moi, mon travail d'imam, c'est de lui dire, de lui faire le rappel une fois. Il m'a obéi, il m'a obéi. Il ne m'a pas obéi, c'est entre lui et Dieu. Et donc, c'est un homme qui reste libre. Il est libre de ses pratiques, mais dans l'éthique du musulman, la pratique n'est pas acceptée. Il ne faut pas jouer là-dessus. Ça, c'est au sous la dîn, d'accord? Donc, à cette époque, donc, il y aura le zina. D'accord, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Les gens vont brader le dîn pour le dunya. On va essayer d'avoir le dunya en bradant, en faisant en sorte que nous cédons dans tout ce qui a trait à notre religion pour avoir le dunya. Regardez ce qui se passe avec le halal. Un exemple, hein, le halal made in China, le halal partout où vraiment les gens jouent avec le halal dans le but de gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment une honte. Alors ça, si on traduit, on va avoir des problèmes. Hein, les femmes qui vont travailler avec leur mari pour avoir plus d'argent, chose qui était inimaginable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si aujourd'hui on dit ça, on dit comme ça. Vous voyez, on revient encore sur la muhabba. À la fin de ce hadith également, dit que les gens vont se saluer uniquement quand ils se connaissent. Parce que le atchus salam abaynakum, le prophète sallallahu dit que parmi les clés de la réussite, faites salam. On dit oui, faites salam, mais ça, tout le monde y apprend ça. Oui, mais ça, c'est à la base de la muhabba. Parce que faire salam, c'est un pas vers son prochain, et ça montre que nous sommes frères en islam. Ça, c'est à la base de la muhabba, de l'entraide, de l'amour qu'il y a entre musulmans. Et c'est ça qui fait que les cœurs restent unis, et c'est ça qui fait que Allah Ta'ala envoie son aide. Et à la fin, oh là là, c'est une description, alors je ne vous dis pas, mais magnifique les termes de Ali. Il dit que les gens, ils auront walabisu julud adh-dhani ala qulubi adh-dhi'ab. C'est comme si que les gens, ils auront des vêtements avec des peaux des peaux de mouton, mais à l'intérieur, mais cela abrite des cœurs de loup, des chacals, on pourrait dire. Des gens, ils ont l'apparence de personnes tendres, doux, mais à l'intérieur, c'est des prédateurs, des snipers, remplis de méchanceté, hypocrites. Des gens qui s'approchent, qui vous parlent correctement, vous avez l'impression, ils vous donnent confiance, mais à l'intérieur, ils sont là pour vous détruire, parce que les cœurs sont rongés. Il n'y a plus de muhabba, il n'y a que la haine pour son prochain. Et Ali, pardon, il décrit comment seront les cœurs de ces gens à la fin des temps. Leurs langues seront plus douces que le miel. Mais leur cœur, leur intérieur pue. C'est le signe de l'hypocrite. Il vous approche, il vous aborde avec de bonnes paroles, de belles paroles. Vous gagnez, il gagne votre confiance. Vous avez l'impression que c'est des gens qui vous veulent du bien, mais dans le fond, leur cœur, hein, wallah, parce qu'il n'y a plus iman, il n'y a plus ces bases-là, c'est des gens qui veulent que le mal. Et à cette époque également, ce qui est bien sera considéré comme mauvais, et ce qui est mauvais sera considéré comme bien. Regardez le nombre de musulmans qui critiquent l'habit de la femme musulmane. Avec toute cette histoire de niqab, on avait déjà abordé le sujet, on avait dit que ça c'est une question politique qu'on n'aborde pas, d'accord ? Mais ce qui nous fait mal, nous, c'est quand dans la communauté, il y a des gens qui sont prêts à critiquer les femmes qui le portent, à ne pas respecter quelque chose qui existe dans le dîn, dire que oui, ça c'est du n'importe quoi. J'ai été abordé par une personne il y a quelques jours dans la rue, il me dit, Moïssa, viens faire un cours privé chez moi. Elle dit quoi de quoi ? Elle dit sur la le signe de la fin des temps et tout et tout. Après elle dit, mais seulement, vous connaissez, mon madame, il passe à table, il ne dérange pas. Elle m'a dit, il continue. Elle dit, il dérange, ou pas assise à table avec une femme n'est pas capotée. Je dis, c'est pas un problème, on verra. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, Pana ? Mais, je ne sais pas, est-ce qu'on est dans le couffre, oui ou non ? C'est grave ça. Quand il dit qu'une femme qui n'est pas capotée, pour lui, il sait qu'on est des religieux, que nos femmes portent le voile, portent le niqab et tout. Il veut dire que si les femmes ne sont pas comme ça. Mais ça vient d'un musulman qui fait namaz. Ça vient d'un non-musulman, on le comprend, c'est pas grave, c'est dans l'actualité. Hein. Mais qu'un musulman, il vienne et vous dise de tels propos, et ça c'est rien, ou alors j'en connais d'autres, wallah, je peux même vous dire où est-ce qu'il s'assoit dans la masjid. Des gens qui sont dans le dîn, qui viennent namaz, qui sont là, et quand ils parlent des personnes qui se couvrent de manière pudique, ils ne le font pas pour avoir de l'argent, hein. C'est pas que cette femme elle est sortie avec son niqab, elle a un chèque à la fin du mois, non. Elles le font par amour et par crainte d'Allah, parce qu'elles ont la conviction que c'est quelque chose qui les rapproche d'Allah, avec l'espoir que le jour de Qiyama, elles seront rétribuées. Si moi, mon épouse ne le fait pas, mais au moins qu'on respecte le choix de ces personnes, et qu'au moins on ne porte pas de critique sur une pratique qui est dans la religion. Parce qu'attention, on ne s'attaque pas gratuitement au dîn d'Allah, il y aura toujours des conséquences. Et la pire des conséquences serait quoi ? C'est qu'Allah Ta'ala, il vous a tellement détesté pour cette parole qu'Allah vous éloigne de son dîn. Et que de jour en jour vous éloignez jusqu'à ce que quand Malik al-Maut prenne votre âme, vous mourrez kuffar. Qu'Allah nous protège. Pour ça, m'a bien dit qu'il y a des gens qui toute leur vie sont mu'min, ils font des actions des gens de Ahl al-Islam, mais avant de mourir, Allah fait en sorte que la personne fait quelque chose qui va l'éloigner du paradis, qui va l'approcher de l'enfer. Et que la personne a vécu comme un mu'min, mais il meurt comme un kafir, et sa destination, c'est la destination des kuffars. Ça, c'est réalité hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire très attention. Je ne porte pas, je ne n'apprécie pas, mais attention. On ne critique pas quelque chose qui fait partie de notre dîn. Allah Mustan. On terminera parce qu'il faut avancer, on ne terminera jamais. On est à 43 minutes, on avait dit 40 minutes, on fait encore 2 minutes. Ça c'est une version, on termine avec Abbas, il dit à peu près les mêmes choses, mais parmi les choses qu'il a dit, il y aura beaucoup de meurtres, beaucoup de tueries à la fin des temps. Consommation d'alcool, alors l'intérêt soit répandu, Allah musta'ad de la umma. Maintenant, parler de l'intérêt sur un mimbar. Allez voir, le nombre de personnes disent, attends, mais ça, mais c'est notre époque, ça. Maintenant, l'intérêt, ça fait partie du commerce. On ne peut plus investir si on n'a pas recours à des prêts bancaires. Comme l'a dit il y a 4 semaines, 5 semaines, qui vous a dit d'ouvrir 1000 mètres carrés ? Ouvrez 20 mètres carrés. Vous avez de l'argent, vous avez un capital qui vous permet d'ouvrir 20 mètres carrés. Pourquoi vous voulez faire 1000 mètres carrés et donc emprunter avec la banque ? On fait selon nos moyens, mais ne jamais rentrer dans des transactions qui sont illicite. وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ Allah, il touche tout le monde, même les ulama sont touchés. Que les gens vont apprendre la science religieuse, mais pas pour la religion, pour autre chose. Ils vont chercher l'honneur ou autre chose par le biais de la science religieuse. وَزَيَّنُ الْمَسَاجِدِ Les mosquées seront décorées, magnifiques. وَخَرَّبُ الْقُلُوبِ Mais les cœurs seront vides. Ça, c'est une réalité. De belles mosquées, mais les cœurs sont vides, vides de iman et vides des qualités qui doivent être intrinsèques à chaque musulman. Le cœur d'un musulman en 2011 et le cœur d'un sahaba, la ilaha illallah. Je ne parle même pas de iman yaqin, de confiance en Allah. Je parle de qualité, de akhlaq. Rien à voir. Allah, Wallahi, qu'Allah ait pitié de nous. Beaucoup de gens qui vont maîtriser la lecture du Coran et beaucoup de gens qui vont comprendre vraiment le sens pour le mettre en pratique. Et dernier point, les hommes qui imitent les femmes, les femmes qui imitent les hommes. Vous voyez une femme marcher dans la rue et regarder un homme, c'est la même tenue vestimentaire, le jean et le pantalon et les chaussures, le jean et le t-shirt, les chaussures. Il n'y a plus de différence, hein, l'imitation des hommes et des femmes. Et attention, les hommes vont se suffire des hommes, l'homosexualité du côté des hommes, et les femmes avec les femmes. Et ça, Allah musta'an, c'est une réalité et c'est quelque chose qui est encouragé, qui est cautionné. C'est comme si c'est devenu normal. On essaie de faire intégrer les mœurs, ce genre de pratique, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala enverra Ad-Dajjal, fasallata alayhim hatta yantaqima minhu. Allah Ta'ala, à cette époque-là, enverra Ad-Dajjal. Alors, on s'est un petit peu attardé, mais volontairement, on a dû citer 15 signes. Vous êtes tous d'accord que ces 15 cas de figure existent déjà. Le but, c'est pas de dire que tout va mal, c'est une catastrophe. Non. Le but, c'est de comprendre que déjà ce signe-là, il est présent. Les signes généraux, Allah musta'an, ils sont présents. Maintenant, à nous de voir si parmi les choses qu'on a citées, il y a quelque chose qui me concerne, moi, qui concerne un proche ou quelqu'un de ma famille, quelqu'un que j'aime. Je dois lui faire comprendre qu'attention, ça fait partie des signes. Ça, c'est les pieds des péchés. Et quand il y aura ce genre de péché dans la vie des musulmans, ce sera la venue de Dajjal. Donc, nous ne devons pas contribuer à l'arrivée de ce genre de signes. Et puis, ce qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera des choses plus techniques. Là, on a vu les signes généraux qui vont précéder la venue de Dajjal. Et la prochaine fois, on va voir. Donc, on va revoir un petit peu la conquête de Constantinople, Constantinia, le deuxième signe. Troisième signe de Beit al-Maqdis. Et les gens vont quitter un petit peu la ville de Madina. Ils vont plus se concentrer sur Beit al-Maqdis. Et Al-Qahtu wal-Maja'a, une famine comme jamais l'humanité n'aura connue, juste avant, les trois dernières années avant la venue de Ad-Dajjal. Qu'Allah nous accepte le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah nous pardonne nos erreurs, nos péchés, à moi en premier, et qu'Allah ramène vraiment les véritables qualités du iman, de le cœur de chaque musulman. Qu'après ce qurbani que chaque personne a pu faire, déjà on demande à Allah d'accepter le sacrifice, l'argent qui a été investi, qu'Allah fasse que ce soit une action liwajhillah, sincérité qui recherche que le contentement, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Ta'ala nous permette de comprendre la réalité de ce qurbani, la réalité du geste de Ibrahim alayhi salam. C'était avant tout, comme l'a dit, une épreuve. L'objectif, c'était qu'Ibrahim alayhi salam ait devant lui un choix à faire. Le choix, c'était quoi? Un enfant qu'il a eu à un âge avancé, qu'il aimait le plus au monde, la créature qu'il aimait le plus au monde. Il venait de l'avoir à un âge avancé, et qu'à ce moment-là, Allah Ta'ala lui ordonne de le tuer. Soit son cœur reste attaché à un plaisir de ce dunya, soit il obéit l'ordre de son créateur. Immédiatement, il a accepté d'obéir l'ordre de son créateur. Et là, Allah Ta'ala, qui n'est pas un valim, qui n'est pas un oppresseur, Allah Ta'ala a changé le code des choses, fait en sorte qu'il y a eu un net sacrifice. Mais c'était le ikhtibar, hein, le test, hein, de Ibrahim alayhi salam. Et ça doit être également une leçon pour nous, chaque musulman. Lorsque je sacrifie un animal, le but, c'est pas que d'avoir une bête qui tombe. La yanan Allah le humuha wala dimauha. C'est pas le sang, c'est pas la viande. La viande, la chair, ça n'arrive pas pour Allah. Wala ki yanaluhu at-taqwa minkum. La seule chose qui va parvenir, c'est la piété. Hein, qu'on doit développer notre piété par le biais de ce sacrifice, qu'à partir du moment où je suis prêt à dépenser telle somme de le qurbani, je me dis que je dois être prêt à faire passer l'ordre d'Allah avant chacune de mes pulsions, de mes passions, de mes besoins. Qu'Allah nous accepte, donne tawfiq de mettre en pratique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.